qu'est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct sans retenue ni complaisance chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
L'édito du lundi 17 avril 2023 du Monde Merveilleux d'après, nous recevons ce soir Jean-Claude Richard de la coopérative alimentaire autogérée Ionicop. Une expérience collective en rupture avec le modèle bourgeois et capitaliste occidental. C'est bon, c'est juste. Ah ouais, jusque-là ?
Oui, c'est très bien, moi, je suis satisfait. Okay. Par principe, tu vois. Les temps de la CNT me satisfont toujours.
Il va donc tout nous révéler du mode de fonctionnement des participants et des participantes, ainsi que des relations qu'ils entretiennent avec les fournisseurs, producteurs et paysans.
Il y aura très peu, nous sommes à Saint-Denis.
Alors, ah, vous plus.
Il y a peu de paysans. Il y en avait, mais il n'y en a plus.
Ah ben, ça me coupe mon, truc, parce que justement, je voulais dire que le 17 avril était déclaré journée mondiale des luttes paysannes. Et c'est depuis 1996, où 19 paysans du mouvement des travailleurs ruraux sans terre du Brésil étaient assassinés par des tueurs à la solde des grands propriétaires terriens bourgeois. Comment concevoir un autre futur anticapitaliste ? Vous le saurez à l'écoute du Monde Merveilleux du Travail, tout en savourant votre potage aux légumes bio. Voilà, et tout de suite, maintenant, la nouvelle chronique ponctuelle, l'almanach culturel de l'actualité brûlante. Nous abordons les limitations aux libertés d'expression populaire.
Déguisé en flic, sales enculés, c'est bien foutu leur combine.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
On ne regrette pas sa soirée.
Vous savez, quand il est agent, c'est le plus charmant des hommes, avec même de l'éducation.
Et instruit, capable de causer tout.
Chers auditeurs et chères auditrices, nous vous avions quitté lors de notre précédente chronique ACAB, selon l'acronyme désormais consacré, sur le souhait le plus cher de Darmanin de dissoudre le collectif Le Soulèvement de la Terre. Et bien aujourd'hui, nous abordons la limitation aux libertés d'expression.
Interdire par le gouvernement, dissolution, soulèvement de la terre, réduction des subventions de la Ligue des droits de l'homme, plus des décisions politiques, parlementaires entre guillemets, sont une limitation à tout un tas de choses, dont la réforme des retraites. Elle est limitée, cette liberté, dans la mesure où ça passe en force par des 49-3 et pas par le biais de la discussion parlementaire, par exemple. C'est contradictoire. Enfin, pour les politiciens, au pouvoir qui sont inscrits dans un régime parlementaire qu'ils contournent légalement à leur avantage sans passer par le vote. Merci. Parmi ceux qui soutiennent le régime jacobin français, nous trouvons en premier lieu les médias institutionnels et leurs journalistes, convaincus du bien fondé de leur regard déformé de l'information.
Et donc, on peut parler d'un musellement par les rédactions médiatiques. Alors j'avais une... D'abord, ça passe par le choix des interlocuteurs qui sont interviewés par le biais de micro-trottoirs, hein, où on va chercher souvent des retraités depuis plus de 20 ans, des fois, et qui donnent leur avis sur, sur la durée légale du travail, et qu'il ne faut pas partir trop tôt à la retraite, parce qu'après on s'ennuie pendant 20 ans, allez vous faire foutre. Bon, il y a ça, le choix des interlocuteurs, les spécialistes pro-capitalistes et réformistes qui sont couramment invités, sans parler des politiques, hein, qui s'expriment beaucoup. Alors, notamment, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas retrouvé sur le site de la SDJ, c'est-à-dire le syndicat des journalistes de France Télévisions, une note effectivement qui relevait les mauvais traitements. Alors, les mauvais traitements, c'est les mauvais traitements de l'information aussi, mais peut-être pour les journalistes hein, aussi. Et sur les manifestations nationales notamment, alors qu'il y a de quoi de faire la une des éditions, les sujets vont tourner essentiellement autour des casseurs. Et voilà, et ce, à des horaires, alors c'était sur France 3, hein, semble-t-il, sur le 19-20. Et voilà. Et on retrouve les mêmes choses à tous les journaux, parce qu'il y avait le journal de 8h de la télé matin. Voilà. Donc, c'est une forme de musulman, je ne peux pas tout lire, parce que j'ai pas amené mes lunettes, mais...
Oui. Tous les invités sur les plateaux de télé et la radio sont majoritairement anti-manifestants, anti-manifestations. Ils sont
Beaucoup quand même.
Plutôt pour. Enfin, sans être pour, ils ne sont pas contre la réforme de retraite.
On va te faire parler des mécontents, mais qui peuvent quand même soutenir, malgré tout, tu ne peux pas y couper, qui vont soutenir le mouvement, mais qui peuvent être mécontents d'aller, par exemple, à l'aéroport, pas aussi facilement qu'il l'aurait été avec un taxi habituel, parce que la route, le péage est bloqué.
Voilà. C'est toujours sur le fil, quoi.
Voilà.
Et puis, ces rédactions médiatiques ne traitent essentiellement, enfin, pour ce que j'en ai vu, moi je ne suis pas trop lecteur, ni trop regardeur, je ne sais pas comment on dit, téléspectateur, voilà. Ils ne traitent que des actes de violence ou de sensationnel, parce qu'on fait, on fait du sensationnel. Ça brûle plus fort, ça brûle plus loin, on brûle des églises, on va jusqu'au mensonge. Beaucoup d'images de policiers, beaucoup. Alors, des gens, on finit par connaître tous les gendarmes, toutes leurs unités, tout leur. c'est un inventaire à la
base. Il vaut mieux qu'on voit les gendarmes que les manifestants, parce qu'ils se retrouvent en garde à vue. Ouais. Fiché, en tout cas.
Et donc, ce qui dit gendarme dit les troisième point qui nous a interpellé, c'est les interdictions. C'est un empêchement de la liberté, bien sûr. Interdiction de manifester par les préfectures et les forces de l'ordre, bien sûr. Alors là, on est dans le.
Oui, alors déjà, il faut. Voilà, légalement, il faut déjà déposer un cortège, un itinéraire de balade de tolard. Enfin, c'est plus trop des balades de tolard, là. Mais voilà, et quand tu n'as pas déposé légalement auprès de la préfecture, ben voilà, on t'interdit de manifester. Or, pareil, légitime quand même de pouvoir s'exprimer dans les rues quand quelque chose nous convient pas. Hein, ça me paraît normal. Oui, on n'a pas besoin de passer par le régime parlementaire, par le gouvernement, par l'État.
Non, c'est là qu'on voit qu'il y a une véritable limitation du droit de l'individu dans l'espace public. Après tout, l'espace public, il est à tout le monde, donc à nous aussi, globalement. Et c'est pas parce qu'on est 2000 sur une place qu'on va forcément mettre le feu à l'église, comme ça a été dit méchamment et malement par les journalistes. Alors que tu te fais un peu lécher la porte de l'église, on sent plus, hein.
Par contre, le feu aux poubelles, c'est de salubrité publique.
Exactement. Exactement. Hein. Bon. Les préfets interdisent ou limitent les manifestations au prétexte qu'il y a un danger. Ça aussi, on insiste beaucoup dans ces reportages, il y a un danger. Là, les manifestants représentent un danger. Alors, c'est pas trop si c'est les manifestants qui représentent un danger ou les idées qu'ils véhiculent qui représentent un danger. Peut-être les deux. Je ne sais pas.
Ce débat est ouvert. Le danger, il existe. Mais. En général, il a un casque et puis une main, un tofa.
Aussi.
Il est plutôt là, de ce côté-là, le danger. Hein.
Et puis, il y a aussi...
Et si on n'interdisait pas les manifs, il n'y aurait peut-être même pas de casse.
Ben oui.
Hein, c'est parce qu'il y a des... À mon sens, hein, je dirais pas d'expérience, mais c'est aussi parce que on empêche le passage des manifestants, c'est parce qu'on les provoque qu'il y ait une réaction. Mmh. Hein, c'est pas... Nos jeunes, nos enfants, ne sont pas comme ça. On les a bien élevés.
Bon, puis il y a une, moi, en marge des manifs, hein, j'ai le constaté à plusieurs reprises, il y a une multiplication des contrôles d'identité à la limite de l'illégalité, d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on se balade à 3 km de la manif ou qu'on descend du train de banlieue le jour où il y a une manif qu'on a forcément une matraque et puis du gaz et puis des bombes et puis de voilà.
Mais ça pourrait être l'objet de notre prochaine chronique où on abordera les violences. Je vous le dis, mais il n'est pas au courant, Eric, c'est moi qui le décide. Il n'y a pas de chef, mais il faut quand même qu'on prenne des décisions. Ça sur les violences, et puis on pourra aborder effectivement ce côté des interpellations en marge des manifs. Vient d'entendre The Subhumans, un groupe canadien qui interprétait Fuck You. Voilà, c'est un message que j'aurais adressé à tout nouveau gouvernant. On va reprendre le fil de l'émission, on va pas reprendre le fil parce qu'on l'a pas entamé le sujet encore. Donc on a comme invité Jean-Claude Richard.
Oui.
Tu peux donner le nom de prénom, c'est pas...
Oui, tu peux, oui, il n'y a aucun souci de ce côté-là.
Et il revient du sud, là, il était au soleil, là-bas, en train de se dorer la pilule. Ça et il revient, là, il n'est pas tout à fait dans son assiette.
Il faisait 20, où j'étais, il se rentrait à Paris hier, il faisait 13 dans la maison. C'est pas la même chose, le sud de notre pays, et puis la région parisienne. Mais bon, est-ce que ça intéresse les auditeurs?
Si, oui. Ils aiment savoir qu'on est en bonne santé, que tout va bien. Voilà. Et qu'on est heureux. Eric est un peu endormi aujourd'hui.
Non, j'étais. J'étais en train d'essayer de décrypter les titres, parce que j'ai pas une bonne vue, donc. Quel que soit le.
Alors, tu as investi. Alors, déjà d'une, tu as écrit plusieurs bouquins peut-être? Sur les coopératives alimentaires autogérées, ouais. Parce que c'est ce qui nous intéresse, quand même.
Oui,
dans le 9-3, hein, c'est bien marqué 9-3, pas 93.
Oui, je suis dans le 9-3, cher ami. Je suis né dans le 9-3, il y a très longtemps.
C'était pas le 9-3 à l'époque.
Oui, mais bon, les jeunes nous ont amené le 9-3 et je l'ai repris à mon compte.
Et donc, tu participes à Dionicop.
Alors c'est Dionicop, oui, c'est donc des épiceries. Hein. Alors je dis des épiceries parce qu'actuellement nous en avons trois sur Saint-Denis. Alors la genèse de cette histoire, si ça peut vous intéresser, ça a été le groupe anarchiste local. C'est-à-dire que c'est pas sorti comme ça un matin.
Il y avait une volonté de construire quelque chose.
Une volonté politique de, disons, de mettre en place des procédures, des actions, des méthodes qui feraient que, en tant que groupe anarchiste local, il a été créé dans les années 70, hein, le groupe de Saint-Denis, qui est devenu après le groupe Henri Poulaille de la Fédération anarchiste. Je suis le survivant de l'époque de la création, il n'y a plus que moi. Et nous sommes posés la question, comme on l'a vu, se posent tous les militants à un moment ou un autre dans leur vie, et généralement c'est plutôt vers la fin de leur vie, c'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que l'on a fait, est-ce que sur la ville on est connu? Est-ce que les valeurs que nous portons sont comprises et partagées? Et on s'est rendu compte, on a constaté, après avoir milité pendant 40 ans sur la ville, en vendant le journal, en participant aux collectifs locaux, en participant aux éventuelles manifs, en faisant des débats, et de l'autre côté à Saint-Denis, en créant une université populaire, la Dion Université, on s'est aperçu que les habitants de Saint-Denis ne nous connaissaient pas. Très peu nous connaissaient. Ceux qui nous connaissaient, c'était les militants. Parce que, évidemment, les militants, alors, bon, quand j'étais jeune du PSU, maintenant du NPA, avant la LCR, les Trosco, Lutte Ouvrière, le PC, tout ça. Bon. Là, on se connaît. Et pareil avec le milieu associatif. Mais les habitants de Saint-Denis nous connaissaient peu. Il devait constater de temps en temps une affiche sur un mur ou peut-être un tract qu'il lisait plus ou moins, mais nous connaissait peu. Et on s'est posé une question toute bête, c'est se dire, si on a dans une certaine mesure échoué au niveau de la communication vers les habitants, au sens très large, il faut peut-être qu'on change de méthode, qu'on change de pratique.
Que ce ne soit pas que du politique.
Alors qu'on essaie autre chose. Alors le politique, il faut le garder. Hein.
Oui, non, mais pas que du politique.
Voilà, il faut peut-être trouver quelque chose qui pourrait fédérer les hommes et les femmes du territoire, et puis qui nous permettrait à nous de faire passer, communiquer, partager des valeurs et des fonctionnements libertaires. Ça, c'est les questions qu'on s'est posées. Et le hasard des circonstances a été que l'idée est venue par qui, comment, je ne sais pas, de créer une AMAP. Bon, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est sympathique. Bien entendu, on va bouffer des légumes, d'accord. Bon, c'est sympathique. Bon. Mais si on crée une AMAP, association, c'est-à-dire une structure avec un président, avec un bureau, avec des assemblées générales annuelles, où on va s'empailler, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui veut devenir calife à la place du calife, ça fait partie des gènes humains de certaines personnes, pas tout le monde, loin de là, mais il y en a, ça fait partie de leur...
Puis surtout, ça reprend les structures hiérarchiques déjà en place.
Ça reprend toutes les structures hiérarchiques. Donc on s'est dit, on a trouvé quelque chose pour fédérer les gens, c'est-à-dire la bouffe, pas les crûments, hein, l'alimentaire. On va... mettre à disposition des habitants de Saint-Denis des produits bio à des prix très raisonnables. On parlera du prix à certains moments parce que ça c'est aussi fondamental, le prix du bio. Il ne doit pas être cher pour moi, hein. Il doit être tout le plus bas possible. Et on va créer une AMAP. Et évidemment, tout de suite, on a démarré à 70 familles et au bout d'un an et demi, on était 250 familles. Et depuis 12 ans, on est 250 familles dans cette AMAP avec des renouvellements. Et on bouffe des légumes. Mais ça, c'est pas l'intérêt de bouffer. Enfin, pour moi, pour la majorité des gens, ce qui les intéresse, c'est ça. Du bio, 30% moins cher. Là, je montre un tract aux copains. C'est ça qui les intéresse. Mais moi, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je suis un militant politique. avec les copines et les copains du groupe Anar. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de partager des fonctionnements, de partager alors ce que les jeunes appellent maintenant la gouvernance. Comment allons-nous organiser la gouvernance, nous, en tant qu'anarchistes, avec des hommes et des femmes qui ne sont pas anarchistes. C'est très intéressant, cette mixité-là. Donc on a démarré une AMAP, il y a 12 ans, avec quelques principes qui méritent d'être proposés, ou écoutés, ou entendus, ou dits, à savoir que nous, on n'avait pas, on ne savait pas ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé avant de façon réfléchie, avec des réunions, qu'on va faire ci, on va faire ça. Ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, puis qu'on ne savait pas faire, et que ça ne servait pas beaucoup de se prendre la tête, puisqu'on ne l'avait jamais fait et qu'on ne savait pas faire. Je ne sais pas si je suis clair, là. Hein, voilà.
Mais je peux avoir compris, en tout cas.
C'est un peu touffu. Alors on s'est dit, on veut manger des légumes, mais on ne veut pas faire une association, on ne veut pas faire une AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc on a dit, on a réuni à la Bourse du Travail de Saint-Denis, là, il y a 12 ans, donc 250 personnes, qui voulaient manger des légumes. Et on leur a dit, voilà, nous, on vous propose quelque chose, à titre expérimental, alors vous allez manger des légumes, ça c'est clair, on avait le maraîcher, c'était bon. À titre expérimental, on vous propose de créer un collectif sans association, sans bureau, sans président, et collectif qui n'aurait jamais l'Assemblée Générale. Alors il y a une notion de jeu, qui est très important pour nous, hein, là-dedans. C'est-à-dire que y a un peu de provoque. Pas de président, pas de bureau, pas l'Assemblée Générale. Alors bon, ça passe, pas de président, tout le monde est d'accord, pas de bureau, ça va. Mais quand on commence à dire pas l'Assemblée Générale, même mes camarades de la CNT, là, vont se dire, il y a un problème, là. On va tous décider ensemble, hein.
On va voir comment ça fonctionne, justement.
Voilà. Et donc, on a lancé cette idée-là. Bien sûr, dans la salle, les gens qui venaient manger des légumes sont intervenus en disant « Mais oui, mais ça ne va pas fonctionner, c'est impossible. S'il n'y a pas une Assemblée Générale, s'il n'y a pas un bureau, s'il n'y a pas un président, s'il n'y a pas des commissions qui décident, qui discutent, et ça ne marchera jamais. » Et là, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, je redis « Mais nous, on ne sait pas. Nous, on propose à titre expérimental de lancer une AMAP, on mangera des légumes, avec pas de président, pas de bureau, pas d'association, pas d'Assemblée Générale. Il n'y a pas besoin de discuter. Si ça ne marche pas, ben on fera une association avec un bureau, un président, une assemblée générale. Toi, tu peux résoudre des crispations politiques, en fin de compte, tout simplement en parlant d'expérimentation. Personne ne peut s'opposer à une expérimentation. Alors ça a enchaîné, hein, les militants, les premiers qui viennent dans une AMAP, dans un truc comme ça, c'est des gens un peu militants déjà, associatifs, politiques, etc. Ils nous emmerdent, les anards, avec leurs trucs.
Qui n'ont pas tous la même vision.
Mais comme il y avait des légumes, c'était une force, hein, les légumes.
C'est
une force politique, les légumes.
Il y a quelque chose qu'il faut creuser, déterrer.
Et donc, on a démarré la AMAP il y a 12 ans, dans cette forme-là. Elle est montée, elle a démarré à 70 personnes, 80, 100, 150, 200. Au bout d'un an, un an et demi, on était 250. Ça fait 12 ans que cette AMAP fonctionne, avec une moyenne de 220, 240, 250, ça dépend. Il y a du renouvellement, hein, donc c'est jamais les mêmes. Hein, donc il y a un passage de témoins, de savoir-faire. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de bureau, il n'y a jamais eu d'Assemblée Générale. Ça interpelle politiquement. Parce que ça voudrait dire, il me semble, que les hommes et les femmes sont capables de mettre en place des procédures de fonctionnement collectif pour faire fonctionner un bazar pareil, parce que c'est un gros bazar. Hein. La MAP, c'est 500 000 euros de mouvement par an. Hein. Mmh. Un vrai gros bazar. Il y a le champignon, il y a du pain, il y a des œufs, il y a du poulet, il y a des fromages de chèvre, des fromages de vache, il y a des poissons, il y a du porc, il y a tout.
Hein? Tout ce qu'on trouve dans le supermarché.
Tout ce qu'on trouve au supermarché, mais de meilleure qualité, et pas plus, beaucoup plus cher. Et voilà, donc c'était pour dire que c'est un peu comme ça que ça a démarré, cette histoire-là.
le groupe Anarche cherchait une autre façon de toucher les gens, mais pas les toucher avec un discours politique, c'est-à-dire avec des tracts, des affiches, avec le journal, Le Monde Libertaire ou un autre journal. C'est les toucher avec une pratique, c'est-à-dire avec des fonctionnements que moi je qualifie de libertaires.
Ben justement, comment ils se rendent compte que c'est libertaire et que c'est pas juste une expérimentation comme ça de zozo qu'on décide. Vous faites savoir quand même que vous avez une démarche anarchiste.
Alors, si tu veux, il y a dans les épiceries, il y a des murs dans les épiceries. Et sur les murs, il y a quoi en général?
Ah, tu peux mettre des affiches.
Ouais. Des affiches. Par exemple, dans l'épicerie de la gare, il y a l'affiche de la CNT. Parce que quelqu'un a mis une affiche de la CNT. Toi. Il y a des affiches de Radio Libertaire. Il y a des affiches. Il y avait l'affiche du colloque dont tu me parlais tout à l'heure, au lycée autogéré, au LAP. Lorsque les nouveaux arrivants dans notre collectif passent par une réunion d'accueil et de présentation, et cette réunion d'accueil et de présentation est faite par les plus anciens qui, d'emblée, annonce ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire, ça a été créé par le groupe anarchiste de Saint-Denis. Donc, à partir de là, ils savent pas, hein. Bon. Mais ça va les, plus ou moins, suivant les individus, suivant leur histoire, ça va les perturber. Par exemple, si tu reçois quelqu'un qui est président d'une association, et tu lui expliques que, chez nous, il n'y a pas de président.
Et que ça fonctionne quand même.
Ça tourne là, dans le cerveau. Parce que pour lui, c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Or, ce que nous constatons, hein, c'est que, moi c'est des constatations, c'est que plus on abandonne du pouvoir, plus les hommes et les femmes, de tout venant, qui n'ont pas particulièrement une culture politique, reprennent ces pouvoirs individuels, sans une volonté de peser sur les autres. C'est-à-dire, ils les reprennent en tant que liberté. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, un petit peu, de ce qu'on a vécu à Saint-Denis. Hugues Lenoir, qui avait sorti un bouquin sur la MAP, il est épuisé, il est sorti il y a 5 ou 6 ans, où justement, il essayait, en tant que sociologue, de comprendre comment des hommes et des femmes qui ne sont pas qui n'ont pas de culture libertaire, qui a priori n'ont même pas ouvert un bouquin libertaire, comment ils peuvent appréhender l'espace et le faire fonctionner sans aucune base théorique. Mais par contre, ils sont dans un espace où le fonctionnement est totalement libertaire. Donc ça se coule là-dedans, ça prend des initiatives, ça bouge, etc. J'ai eu beaucoup de mal à expliquer ça. Et les universitaires, je déteste les universitaires, hein, c'est un autre débat, qui viennent chez nous, et là on en a depuis un an, là, il y en a 7 ou 8 là, ils essaient de comprendre comment on fonctionne, et c'est une très grosse difficulté, parce qu'on n'a pas les codas habituels. Hein. Alors moi je suis excessif dans les mots, c'est un immense foutoir. Que disait Élisée Reclus, l'anarchisme, c'est la plus haute expression de l'ordre. C'est un immense foutoir, mais qui fonctionne très bien. Très, très bien. Hein? Et ça ouvre les portes. Et par exemple, la MAP, c'est 3 livraisons par semaine, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Eh bien, il y a des clés en pagaille. Et les portes sont toujours ouvertes, il y a toujours des gens qui préparent les paniers pour les autres, et puis la semaine d'après, c'en est d'autres, et puis c'en est d'autres, tout simplement parce qu'il y a un cahier et où ils écrivent leur nom pour dire « je vais le faire », et je là. Et si tu veux, c'est une autre discussion, je suis convaincu avec le recul de toutes ces expériences qu'on a menées à Saint-Denis, que la liberté engendre la responsabilité. Cette phrase-là, moi, je la garde comme un phare. La liberté engendre la responsabilité. Moins tu laisses les gens libres, moins ils seront responsables. Parce qu'ils vont se faire engueuler, ils vont se faire... Mais si tu les laisses libres, ils vont commencer à se dire « Mais je peux faire des choses. Je peux commencer des choses. » Mais ils vont faire des erreurs, peut-être, pourquoi pas. Moi, je peux te dire que globalement, ils en font très peu, des erreurs. Ils font fonctionner la machine, et surtout, ils sont heureux. Ça, c'est un terme aussi qui doit intervenir pour moi dans la militance. Quand on milite, on doit être heureux. Si on n'est pas heureux, il faut arrêter tout de suite. Mmh. Voilà, bon. Ça, là, un petit peu pour essayer de vous donner l'envie d'aller vers des questions.
Oui, non, mais
sur cette partie-là, après, c'est la partie.
Parce que c'est vrai que quand on voit les associations,
ils sont pas heureux.
Non, mais dans le fonctionnement des associations, bah là, il y a un président, un trésorier, un secrétaire. Et bah, c'est très hiérarchisé, en fait. Et même si ce n'est pas des tyrans, au bout d'un moment, tu te demandes ce que tu fous là-dedans. Enfin, moi, je suis allé dans une association de locataires. Alors, j'ai essayé de proposer une... Alors, il fallait quand même des statuts. Vous avez des statuts, quelque chose, non? Ou c'est
un... Alors, nous avons... j'ai un petit peu menti hein, tout à l'heure. J'ai dit que nous n'avons pas d'association. Il y en a une. Parce que sans association, on ne peut pas avoir loué un local. On ne peut pas être assuré par la MAIF. On ne peut pas ouvrir un compte au Crédit Coopératif. On ne peut pas avoir l'électricité au plafond. Je pense à Radio Libertaire, il y a une association. Mmh. Sinon, vous n'auriez pas de lumière. Bon, voilà. Le problème de l'association, c'est pas tant qu'il y en ait une ou il n'y en ait pas, c'est qu'elle ne doit pas fonctionner. L'association, c'est l'outil juridique pour faire plaisir aux institutions. Mais une fois que tu as signé le bail, ou que tu as signé le contrat avec l'EDF, tu prends l'association, tu mets dans le tiroir, tu fermes la clé, elle n'existe plus.
C'est comme nous à la CNT, hein, on a des délégués syndicaux, mais ils n'ont aucun pouvoir. Mais c'est parce qu'on le décide. Enfin, je pense que t'en penses, Eric. Il ne parle pas depuis tout à l'heure, il est quasi endormi.
Bon, pas lui du tout, je suis attentif.
En fait, effectivement, il y a la légalité qui nous est imposée par le pouvoir bourgeois, à laquelle on est obligé de se soumettre, donc déclarer des secrétaires, des trésoriers, un bureau, ou d'avoir des délégués dans les entreprises, mais en fin de compte, ils n'ont pas plus de poids que les autres. Donc, c'est de notre propre initiative qu'on a décidé, effectivement, qu'on n'a pas plus d'importance. Enfin, quelqu'un qui a un mandat, malgré lui, en fin de compte, n'a pas plus d'importance qu'un autre. Oui, il dit oui, Eric, il est d'accord. Il faut avoir la volonté d'être en rupture, mais on est obligé de se soumettre, effectivement, aux règles légales de constitution d'une association, d'un syndicat. Mais c'est la même chose.
Alors, c'est là, sinon, moi.
Sauf que nous, on fait des assemblées générales. Mais c'est pas pour ça qu'il y a des chefs.
C'est évident. tu parlais de mandat. Si tu veux. Moi, j'étais syndicaliste. J'en parle pas parce que je vais me faire insulter. J'étais à la CFDT dans ma jeunesse. J'étais autogestionnaire. Ah, bien entendu. Mais, bien sûr, il y a des mandats. Mais dans notre modèle, il n'y a pas de mandat. Parce qu'il n'y a pas l'Assemblée Générale. Ça, c'est un sujet, ça pour rigoler comme ça. Si tu enlèves l'Assemblée Générale, tu ne peux plus donner de mandat. Tu ne peux plus avoir que des trésoriers qui s'auto-désignent. C'est-à-dire, on l'est sur un autre palier.
Mais oui, mais les associations, justement, il faut déclarer un bureau, quand même.
Hein? Non.
Enfin, moi, du peu que je connais des associations, je ne parle pas des syndicats.
Non, je vais être concret, très clair, comme ça, tu vas tout de suite comprendre.
Voilà.
Il y a une association, on est trois dedans. Elle ne fonctionne pas.
Oui, non, mais je suis bien d'accord. Mais
bien d'accord.
Il faut bien qu'il y ait des noms qui soient donnés.
Oui, il y a trois noms.
Voilà,
il y a un président, un trésorier, un machin. Mais il n'y a pas de trésorerie. Mais il n'y a pas de. Il n'y a rien. Il n'y a pas l'Assemblée Générale, ce sont les trois. Enfin, je suis dedans, bien sûr. On est à l'origine. Donc... ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer à l'extérieur.
Mais je suis bien d'accord là-dessus. Hein. Tu vois, c'est ça que j'ai en fonction.
Et à l'extérieur. Donc le trésorier, quand tu parles trésorier, il m'a semblé que tu as pensé au trésorier de l'association. Oui, mais le trésorier de l'association, nous, il n'a rien, il n'a pas d'argent, donc il ne fait rien. Nous, on a des trésoriers pour faire fonctionner, par exemple, les épiceries. Il y a trois épiceries. L'année dernière, on a fait 460 000 euros de mouvement d'affaires. Donc c'était énorme, tu vois. Bon. Les trésoriers, il y a trois trésoriers. Trésorière, il y a trésorière et un trésorier. Ils se sont auto-désignés trésoriers. Et le jour où ils n'ont plus envie de le faire, ils disent « je ne le fais plus, qui veut prendre la place ?» Mais donc, si tu vois, ce n'est pas le trésorier de l'association. Voilà, c'est pour montrer que c'est...
D'accord, ouais.
Donc, on rompt... ça va un peu trop vite, là. Mais c'est tout un tas de jeux comme ça qu'on a mis en place d'un point de vue, de mon point de vue, d'un point de vue libertaire, hein, qui font que ça déstabilise les gens et ça les amène à, après un moment de regard, d'essayer de comprendre, d'essayer de saisir, s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de liberté là-dedans et qu'ils vont pouvoir faire plein de petites choses. Ce qui fait que dans le collectif, moi, j'affirme toujours que, bien sûr, tout le monde ne s'implique pas. Le collectif AMAP plus les épiceries, c'est un millier de familles. Je n'ai pas dit qu'un millier de personnes s'impliquaient. Je me dis ça. Moi. Mais par rapport aux associations classiques que l'on connaît tous, qui se plaignent que les membres, c'est tous des feignants qui foutent rien, que ça, je ne veux pas vous faire la machin des associations, c'est comme ça. Moi, je dis que dans notre modèle de liberté, il y a énormément d'implications, puisque la map fonctionne, puisque les épiceries s'ouvrent, puisque les commandes sont passées, puisque les commandes sont réceptionnées, puisque. Donc c'est trésorier sans YouTube, paye les fournisseurs, etc. etc. Donc il y a tout un tas d'individus qui s'impliquent. Hein, je reviens pour donner une dimensionnelle. Il y a sur les épiceries à peu près 150 personnes qui passent des commandes. Donc c'est énorme comme implication. Dans une structure comme la Louve, il y a 10 personnes qui passent les commandes. Et c'est les salariés. Nous, c'est 150 personnes qui passent les commandes. Ça peut être une commande d'un fabricant de confiture qui fait des myrtilles dans la Creuse.
En fait, les 150 qui passent des commandes, c'est pas en fonction des besoins de la globalité, c'est ce que j'ai retenu un petit peu de ce qui s'était dit au LAP, c'était par Philippe, mais plutôt j'ai des envies ou j'ai découvert quelque chose et je vais le faire partager à tout le monde, et ça marche ou ça marche pas.
C'est ça l'idée,
et en fait c'est chaque personne fonctionne de la même manière, enfin peu en elle, tout cas elle... a la possibilité de fonctionner comme ça, et là il y en a 150
Les membres du collectif ont la liberté de faire. Cette phrase est très importante. Ils n'ont pas la liberté de proposer. Parce que généralement, on dit « Oui, mais tu peux proposer. » Quand tu proposes, ça veut dire que d'autres vont choisir pour toi. Mais là, c'est différent. Ils ont la liberté de faire. Ça veut dire que si quelqu'un découvre un brasseur de bière qui lui plaît, dans l'épicerie où il est, il peut prendre l'initiative de passer une commande. Bien sûr, il y a un protocole de commande pour la comptabilité, pour que ça soit clair, la facture bien établie, enfin des bricoles administratives. Hein. Mais il peut passer une commande du montant qu'il veut après avoir demandé l'accord du trésorier. C'est-à-dire demander au trésorier, je veux dépenser 200 euros, est-ce que tu as l'argent pour que je puisse dépenser 200 euros? Le trésorier regarde, j'ai l'argent, vas-y, tu peux les dépenser. Donc il y a encore du jeu là-dedans. C'est-à-dire la personne va sélectionner un produit avec bien sûr l'envie de partager, avec les autres, elle va les mettre en rayon, et puis elle va regarder, et elle va écouter. Parce que dans notre modèle, personne ne sait que c'est toi qui as acheté la bière. Il y a un jeu encore là-dedans. Donc on ne peut pas montrer du doigt à quelqu'un qui achète un produit qui n'est pas bon, qui est trop cher, etc. Il va entendre des échos, ça c'est sûr. Parce que ça va râler, ça va constater, c'est quoi ce truc-là, c'est pas bon, t'as vu la bière, elle est dégueulasse. À côté, l'autre, elle est vachement meilleure, la montreuilleuse, à côté de celle-là, bon. Bah, bon. Et donc, ça va être du jeu, et puis ça va permettre une régulation a posteriori, plutôt que ce que l'on veut toujours faire, les uns, les hommes et les autres, faire une régulation a priori. C'est-à-dire se réunir, décider si la bière elle est bonne ou pas bonne, s'engueuler parce qu'on n'est jamais d'accord, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, parce qu'on est différent, donc créer du conflit, hein, et en fin de compte l'acheter la bière ou pas l'acheter, il y aura du conflit. Là c'est différent, on peut acheter, une personne peut prendre l'initiative, et si ça plaît pas, ça s'arrête, et si ça plaît, ça se développe. Et ça, c'est une façon très simple d'organiser un collectif qui nous a fait rejeter, ben ça c'est position libertaire, par exemple les commissions. Il n'y a pas de commission. Il y a eu, quand on parle des épiceries, dans la première épicerie, il y a eu des commissions qui se sont mises en place. Je racontais l'anecdote des commissions. Ça a été des commissions Alors, c'était des commissions mixtes, c'est-à-dire il y avait quelques militants du groupe anarchiste et puis des membres de la MAP qui voulaient ouvrir une épicerie. Bon, c'était à peu, globalement une 30 personnes, quoi, 30 personnes. Quoi. Et ils ont créé des commissions et ils les ont appelées des commissions éphémères. Moi, je trouve que c'est d'une intelligence politique de dire on va faire des commissions éphémères. Parce qu'ils avaient compris que s'ils faisaient des commissions qui resteraient, il y aurait là des espaces de pouvoir où, bien entendu, on demanderait qui veut en être membre, et là, il y aurait les doigts levés. Moi, je veux être membre. Et là, on était dans la merde jusqu'au cou. Avec les petits chefs, tout venant, il y en a partout. Hein. Donc là, on va faire des commissions éphémères et on va prendre des décisions expérimentales.
C'est comme à la CNT, finalement.
Ouais. Oui, non, mais c'est...
Voilà. Et ça, c'est sont des jeux. voilà, donc ils ont pris des décisions expérimentales. Alors après, les décisions expérimentales, si ça peut vous intéresser ou si vous voulez me poser des questions, c'est à vous de me couper, hein, n'hésitez pas. Non, mais ils ont pris un certain nombre de décisions expérimentales avec une présence du groupe Anar, mais pas une présence, si tu veux, forte comme au début. Avec la MAP, ça a été, c'est nous, c'est expérimental... Il n'y aura pas de président, il n'y aura pas de bureau, il n'y aura pas l'Assemblée Générale, et on verra bien. Là, ça tournait depuis 5 ans, la MAP, et là, ils ont pris des décisions expérimentales, et moi, je sais qu'ils m'ont étonné, d'un point de vue politique. Ils ont décidé, par exemple, que, alors je sais un peu ce que j'expliquais avant, tout le monde pourrait passer des commandes auprès des fournisseurs, de son choix, sans demander l'autorisation à personne. Mais c'est pas normal comme façon de réagir, ça. Parce que la normalité, c'est on va faire une commission qui va décider des fournisseurs et des produits qu'on va acheter. Mmh. Ça, c'est ce que je rencontre dans la majorité des épiceries de France. Hein. Épiceries ouvertes par les consommateurs. Il y en a à peu près 350 aujourd'hui en France. La plus grosse majorité, c'est la commission décide des fournisseurs et des produits. Et là, à Saint-Denis, baignant, je pense, dans... un truc libertaire, là, avec la MAP, il n'y avait pas de président, jamais l'Assemblée Générale, tout le monde faisait un peu de boulot, ça tourne et tout le monde est content, tout le monde a une banane jusqu'à là, il y a une banane. Je suis très, pour moi, c'est très important, tout ça. Le plaisir, le jeu, la banane, les gens sont contents, quoi. Pas de gueule de travers, là, tu sais, là, il fait chier le président, c'est un con. Non, tout le monde est content.
C'est bien les gens qui râlent, on aime bien. Nous.
Et donc, ils ont décidé des trucs... bon, ils ont décidé que tout le monde pouvait commander. Ils ont décidé, au niveau administratif, alors ce sont des petites bricoles, mais c'est extrêmement intéressant à terme. Ils ont décidé qu'on allait expérimenter un truc. Dans l'épicerie qu'on va ouvrir, il n'y aura pas d'informatique. Tu prends le plus petit village de France qui ouvre une épicerie, un petit bled de 300 habitants, la première chose qu'ils achètent, c'est un ordinateur.
Du coup, les paiements sont en espèces ?
Non, tous les paiements...
Ah, une carte ?
Non.
Non ?
Alors, ça, c'est un autre truc qu'ils ont résolu aussi. Il y a eu plein... Vas-y.
Paye pas.
Ils volent.
Ils ont décidé que... qu'est-ce que je veux dire ? Pas l'informatique. Ils ont remplacé l'informatique par le stylo et le papier, quoi. Et le stylo et le papier, on est tous égaux devant le stylo et le papier. Devant l'informatique, c'est pas évident.
Ah, et tous égaux quand on sait écrire.
Oui, écrivent pas.
Bon. Lire et écrire.
Bon, mais devant le clavier, hein, bon, c'est un autre débat. Disons qu'on a avancé vers une certaine forme d'horizontabilité. Et donc, ils ont expérimenté ça, et on n'a pas d'informatique dans les trois épiceries. Toi, hein. Je pense qu'on va en ouvrir une quatrième, là, il n'y a pas d'informatique. Eliott Melel, qui nous a repris à Amiens, à Lens, comment, à Villers-Cotterêts, dans le sud, dans les plantes de Petit Bled. C'est pareil, ils ont laissé de côté l'ordinateur. Mais c'est amusant, ces trucs-là. Il y a un gros article dans Silence de ce mois-ci, là, sur la simplicité et l'absence d'informatique, justement, dans les épiceries. Parce que on est coincé, on a des modèles et il faut l'ordinateur.
Ça doit vous couper un petit peu de la clientèle bobo qui aime bien être sur. Pas que d'ailleurs, mais qui aime bien être sur le téléphone, faire tout, passer des commandes par téléphone, payer, faire des règlements par téléphone.
Comment t'appelles ça ? C'est click and collect, c'est ça ?
Ouais,
ça. Il n'y a pas ça chez nous. Il n'y a pas ça chez nous. Il y a, tu vois, il y a,
Le but, visiblement, ce que je comprends du fonctionnement, c'est aussi de créer du lien quelque part.
C'est créer du lien.
Tout le monde participe de la même manière.
De la simplicité. La simplicité, créer du lien, de la simplicité. Je prends par exemple les achats groupés. Voilà. Les achats groupés, tout le monde peut lancer une filière d'achats groupés. Du porc, des confitures, des oranges, des noix, je m'en fous, tout le monde peut lancer. Donc, il y a plein d'initiatives qui fleurissent comme ça, d'achats groupés. La seule différence, il y a une rupture très nette, c'est qu'on ne peut pas, dans notre modèle, parce que c'est pas écrit, si tu veux, c'est-à-dire que s'il y en a un qui le fait, il se ramasse un tas de commentaires de partout. Tu vois. Mm. C'est de dire... vous vous mettez sur le site du paysan et vous commandez en ligne. Ça, c'est pas possible. Ça se met à hurler de partout. Non. Si on lance une filière d'achat groupé, on en assume le travail et la responsabilité. C'est-à-dire, le paysan, il n'est pas là pour faire à notre place un état des commandes. Par exemple, on a acheté des fruitières. On a acheté 250 kilos de fromage, de comté, etc. Bon. On pouvait passer la commande en ligne sur la fruitière. Ils ont un système de commande en ligne. Et dans notre modèle, mais c'est y a même pas de débat. Ça fait partie de notre ADN maintenant. La personne qui a décidé de passer une commande s'est occupée de prendre toutes les commandes. Et elle a envoyé la commande globale à la fruitière. C'est-à-dire, il y a vraiment une volonté de partager et une volonté de faire ensemble. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas de click and collect. Il n'y a pas de truc comme ça. C'est tout un tas de petites choses comme ça qui donnent à notre fonctionnement collectif une couleur, une image, quelque chose de... C'est un peu hors du monde, tu vois.
Ce que je voulais en venir aussi, surtout, c'est les personnes qui sont habituées. Alors, il y en a peut-être qui sont tout le temps sur leur téléphone. Là, du coup, ça les déshabitue, ça les ramène à quelque chose d'autre.
Il n'y a pas besoin de téléphone chez nous. Il n'y en a pas de téléphone.
Il y a quand même des gens. Il y a de plus en plus, moi, je vois de plus en plus de monde qui paye avec le téléphone dans les supermarchés. Nous, on avait reçu une coopérative aussi alimentaire. Mais enfin, bon, c'était autre chose. Ils avaient même pas. Ils encaissaient vraiment qu'en espèces. Ouais. Il n'y avait pas de on ne pouvait pas payer par carte.
Voilà.
Donc, mais ça marchait aussi beaucoup sur la confiance, puisque si tu allais là-bas et puis que tu n'as pas tes 20 euros, tu ne peux pas payer par carte, tu payes le lendemain. Le but, c'était de pas, effectivement, de se démarquer, d'être en rupture avec tout ce qui est électronique.
Alors nous, si vous voulez, par rapport au paiement, par rapport au financier, la commission éphémère... administrative, là, s'est posé la question de comment on allait payer. Je ramène, moi, des choses que j'ai appris après. Moi, j'étais pas dans toutes les commissions, j'étais dans une, je crois que j'étais dans la commission bricolage. Moi. Parce que j'adore bricoler, on a fait des étagères en bois, on était une équipe, on s'est comme des fous. C'est merveilleux. Mais j'ai su ce qui s'est passé, évidemment, puisque, bon, dans notre collectif, on parle beaucoup. Et donc, ils se sont dit, si on prend des paiements en espèces, des paiements par carte bleue, des paiements par chèque, des paiements par virement, des paiements par smartphone, eh bien, un trésorier, on n'en trouvera jamais. Parce que le trésorier qui doit compter des pièces, s'occuper des cartes bleues, s'occuper des virements, reçu de Monsieur Dupont pour le compte de Madame Duval, le smartphone et compagnie, il n'y aura jamais de trésorier. C'est-à-dire que qui veut être trésorier, tout le monde sera sous la table. Donc ils ont dit, à titre expérimental, on va poser comme hypothèse qu'il n'y aura que des chèques. Mmh. Et alors là, bien sûr, allez, mais je suis interdit de chéquier. c'est pas grave, c'est pas de ma faute, c'est interdit de chéquier. Bon. Par contre, tu as du liquide. Tu me prends ton billet de 50 euros, tu le mets au bout de ta main, tu dis qui veut faire un chèque pour moi, et tu as 5-6 bras qui se lèvent en disant je fais un chèque pour toi. Donc c'est un faux problème, ça. Donc ils ont dit on va essayer avec des chèques. on ne fonctionne qu'avec des chèques. Donc on a des trésoriers, il y a trois trésoriers et trésorières, qui, une fois par semaine, prennent les chèques de la semaine et les portent à la banque. C'est-à-dire, on a une facilité à trouver des remplaçants au poste que ne trouvent pas les autres structures. Ouais. Ça, ce sont tout un tas de petits détails comme ça qui organisent notre, notre fonctionnement. Après, ils ont décidé...
Qui organisent et qui facilitent aussi.
Hein ?
Et ça facilite aussi.
Oui, ça facilite. Ça facilite, ça organise. Pour moi, ça, ça s'appelle facilite. Je voulais dire, ouais. C'est le mot que tu emploies, c'est celui que je voulais dire en fin de compte. C'est, ça facilite énormément. Et ils se sont posés aussi. Disons, ils ont été d'une intelligence politique. Ils se sont dit à un moment donné, bon, ben, il faut payer le stock. Vous ouvrez une épicerie, il faut des produits dans les rayons. Bon, comment on va faire? Alors là, moi, je les connais, les réponses. Je pose à chaque coup cette question-là quand je fais un débat, une conférence. Alors, vous faites comment pour le stock? Et là, oula, oula, il y a eu silence, là. Bon, on va demander à la banque. Bon. Et après, oui, il y a peut-être quelqu'un qui a des sous. On va demander une subvention à la mairie. Et eux, ils ont trouvé une solution beaucoup plus simple. Moi, j'étais sur le tube quand j'ai appris ça. Ils ont dit, on va faire comme à la MAP. Dans une AMAP, on préfinance le maraîcher. Mmh. Eh bien, on va mettre un chèque sur notre compte personnel. Si on est riche, on met 100 euros. Si on n'est pas riche, on met 80 euros. Si on n'a pas beaucoup de sous, on met 30 euros. C'est pas important, ça. Avec cet argent-là, il va être acheté des produits. Et après, on se sert. À la fin de l'année dernière, il y avait 68 000 euros de stock dans les trois boutiques. Tout est payé. On n'a aucune dette. On n'a pas de dépôt. On paye tous les fournisseurs. À 15 jours, 20 heures maximum. On n'a aucun emprunt, on n'a aucun découvert bancaire. Mais c'est génial, cette idée, de mettre une somme d'avance sur le compte. Et si on veut s'en aller, il nous reste 25 euros, on prend les produits, et on s'en va. Il y a une imagination, moi je suis convaincu en tant que militant, que la liberté qui a été prise par les hommes et les femmes du collectif de la MAP, qui ont imaginé ensuite en grande partie les épiceries, cette liberté a déverrouillé des inventions, des folies, des rêves, des « on va le faire ». On va le faire. Le pire qu'ils ont fait, je te raconterai plus tard, le pire qu'ils ont fait et qu'ils m'ont racheté. Voilà, vous avez des questions.
On va faire une petite pause musicale.
Oui, une pause musicale.
Acide formique, chicken nugget, acide citrique, junk food, big food, acide tartrique, always the best, acide sorbique, citrate, lactate, malade, malade, ino, cynique, obèse, obèse, on se sulfate puis on se pèse. Oh,
Eh bien, c'était Alain Nitchaïev qui interprétait l'enfer de la malbouffe. Voilà, il est suisse. Tout à l'heure, on a eu les Canadiens, maintenant, c'est un Suisse. Voilà. C'est parfait. As-tu parlé un peu, qu'on entende ta voix, Eric?
Mais écoute, on va croire que t'es pas là. J'avais deux questions, moi. Parce que, y a deux choses. D'abord, sur le fait que ça fonctionne bien, parce que c'est un petit peu des de répondre à ma question, je peux te poser des questions, après tu réponds. Ça fonctionne bien, il y a une idée de liberté, d'initiative, d'être de joie de vivre, etc. Mais parce que c'est ça touche quand même, je crois que Saint-Denis, c'est une des plus grandes villes la plus peuplée de Seine-Saint-Denis, donc ça touche très peu de monde finalement, donc ça touche des gens qui ont des prérequis. On verra lesquels après, mais
les gens du quartier peut-être
ont des prérequis pour intégrer ce type de structure. Donc je peux dire que déjà ça, moi d'un point de vue analytique, c'est ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que la volonté de s'étendre au plus grand nombre, en fait c'est pas réalisé. Et est-ce que c'est réalisable? Ça, c'est la première question. Est-ce que ça ne restera pas dans un cercle de militants, ou en tout cas de ce dont vous avez évoqué aussi précédemment, c'est dans un espace de culture politique. Tous ceux qui n'ont pas de culture politique, ils continueront à acheter dans les grandes surfaces ou chez... donc, est-ce que c'est pas eux la cible dont tu parlais au départ aussi? C'est-à-dire élargir... parce que pour l'instant, moi, je vois un modèle qui est un modèle politique, mais aussi militant. Même si tous n'ont pas le même degré de militance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est les chercheurs. Alors, les universitaires, alors moi, je les aime bien. Moi, je les aime bien. On n'a pas le même point de vue, parce que je les aime bien. Pas tous, hein, parce qu'on déteste beaucoup aussi, mais le modèle universitaire, j'aime bien. À mon avis, quand on est universitaire et qu'on étudie un problème, qui est un problème nouveau, une problématique nouvelle, ou une question nouvelle, si on n'a pas les outils... Eh bien, on se crée les outils et on les... Comment dire? Et on fait en sorte de les tester jusqu'à ce qu'ils deviennent pertinents. Alors, ça prend plus ou moins de temps, mais ils ne sont pas dépourvus. Normalement, en tout cas, ceux que je connais ne sont pas dépourvus. Je crois que ça, il y a un petit bémol que je souhaite apporter. Et puis, la troisième question, ça touchait effectivement sur le... le fait de pas faire de marge. Alors, ne pas faire de marge, soit là, on est sur les produits bio, par exemple, c'est une volonté de vendre à prix coûtant, c'est-à-dire voilà, et dans ce prix coûtant, il y a quand même il y a des espaces en location, donc ça intègre le loyer dans la vente. Alors, c'est ma question est voilà, une demande de précision
Une demande de précision, voilà. C'est évident. Alors, je vais commencer par ton dernier commentaire. C'est dingue parce que les personnes membres de cette commission éphémère là, qui ont décidé qu'on vendrait à prix coûtant, on ne prendrait pas de marge, se sont aussi posé la question du loyer, de l'assurance, de l'électricité et de l'eau. Ce sont les quatre postes, hein. Vous voyez, assurance, électricité et l'eau. Et ils se sont dit, bon, on va pas se prendre la tête, on est 250 à la MAP, on va être 250 dans l'épicerie, faut toujours faire simple dans la vie. Hein. Le loyer, on le connaît, c'est 500 € par mois, parce qu'on avait une proposition de bail de l'office d'HLM, avec un local au milieu d'une cité, parce que tous nos locaux sont dans les cités. Ça c'est un autre d'autres considérations, hein. Et la MAIF, on va téléphoner, ils vont nous dire combien c'est. L'EDF, ça ira pas loin parce que bon, on a un peu de lumière au plafond, parce qu'on a l'eau, encore moins loin puisqu'il n'y a pas de baignoire, il n'y a pas de douche et il n'y a pas de machine à laver,
les toilettes sèches.
Bon, donc ils ont fait le total, ils ont divisé par les 150, ils ont trouvé 18,22 €. Et ils ont décidé à titre expérimental que chaque membre du collectif participerait à hauteur de 20 euros par an, au fonctionnement de l'espace. Donc les gens qui nous rejoignent ont deux obligations, faire un chèque de 20 euros pour participer au loyer, à l'assurance, l'eau et puis l'EDF. C'est pas une adhésion, il n'y a pas d'adhésion chez nous, hein, puisqu'on n'est pas une association. Ils participent et faire un deuxième chèque qui va être une avance sur achat de produits. Ben, ils ont trouvé ça. Ça n'a pas bien fonctionné, parce qu'en vérité, il y a des gens plus loin qui viennent, etc. Donc, ça a beaucoup dit. Alors, nous, on n'a pas d'assemblée générale formelle, mais on a énormément d'assemblées générales informelles. Ça discute tout le temps, surtout autour du bar.
Il y en a quand même, alors.
Oui, autour du bar. C'est très informel. Et il peut être pris, à titre expérimental, des décisions qui sont plus ou moins appliquées par les uns et par les autres. Tout le monde n'a pas les mêmes paires de lunettes, hein, comme disait Gaston Couté. Donc il y en a qui voient comme ci, il y en a qui voient comme ça. Et la deuxième année, alors c'est venu comme ça dans les discussions, c'est plus 20 euros parce qu'on est content, donc c'est 30. De participation, loyer à l'assurance, électricité et l'eau. Mais il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire, je sais qu'il y en a qui ne payent pas, je sais qu'il y en a qui mettent moins. Je sais qu'il y en a qui mettent plus parce que le trésorier voit passer des chèques. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il doit payer à la fin de l'année les 12 mois de loyer, l'électricité, la maïf et l'eau. C'est la seule chose qui l'intéresse. On capitalise aucun argent. Hein. Il faut qu'on paye ça. C'est tout. C'est l'objet. Et donc, ça résout ta question. Ils ont trouvé la solution simplement en disant on va faire une participation. Alors après. Si tu reprends le premier commentaire sur la participation, moi je pourrais te renvoyer la question en te disant comment tu comptes faire pour que les 110 000 habitants de Saint-Denis participent à nos coopératives. J'en sais rien. C'est le type de question, on ne peut pas répondre à ça. Il y a des gens qui participent, des gens qui ne participent pas. On peut mettre sur la table un certain nombre de process, un certain nombre de principes. Et ensuite, on verra. Le premier principe qui a été mis sur la table, c'est les produits bio doivent être pas chers. Nos pâtes sont à 1,20 le paquet, ils sont au prix des butonis. Hein. Les butonis, c'est pas bio. Donc, on a des produits qui sont alors bio de qualité. Hein, s'entend. Tu as le bio de merde, mais bio que quand tu le manges, tu te dis, putain, c'est bon. Hein. Donc, pas cher. Deuxième, on va s'implanter dans les cités. Bon. Donc, on a, première épicerie a été implantée dans une cité qui a été construite en 1927. Mon père, qui était dans le bâtiment, a posé les briques. Il m'en a parlé quand j'étais gamin. Donc, je sais, une cité est toujours là, une grande cité. La deuxième est dans une autre cité, à Bel Air, une autre cité. La troisième est dans un autre quartier de la gare, où là, c'est plus les cités, là. C'est en pleine, comment on appelle ça, la gentrification, là, c'est autre chose. Donc, on s'est installé dans les cités. Est-ce que les gens des cités sont venus? La MAP aussi est en plein milieu d'une cité. Alors là, on a quatre locaux. Hein. La MAP, alors là, c'est une immense cité, mais pas très haute, quatre étages, mais très très étendue. Et au milieu, il y a une barre de commerce. Quand j'étais gamin, il y avait tout là. Il y avait boulanger, il y avait boucher, il y avait tout. Là, il n'y a plus rien maintenant. Il hein. y a des assos. Donc on est au milieu de la cité. Et après. Je pense que si on croit que ça va suffire pour que les gens de la cité viennent, je crois que politiquement, là, on fait une erreur. C'est pas comme ça, c'est pas si simple que ça. Il y a toute une histoire. On va pas revenir sur l'histoire du Parti communiste qui avait ses entrées dans toutes les cités, justement, dans les milieux populaires. À l'époque, c'était pas les cités, mais dans les quartiers et tout. Je sais quelque chose par mon père. Donc, c'est pas parce qu'on est au milieu de la cité, c'est pas parce qu'on fait des produits pas chers que les gens de la cité vont venir. Et à partir de là, moi, j'ai pas de solution. Il y en a quelques-uns qui viennent. Mais, de ce point de vue-là, ils vont toujours à Carrefour. Il y a un problème culturel. Hein, c'est-à-dire, il me semble, c'est des idées comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que le bio, c'est pas pour eux. Je vais te dire, moi, avant d'avoir créé la MAP, moi, je l'ai créé pour des raisons politiques. Je ne l'ai pas créé pour les légumes. Le bio, j'en avais rien à foutre, moi. J'allais au marché de Saint-Denis, hein. Puis je prenais des trucs comme ça. Donc, je n'ai pas tiré sur... toi, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas. Ça ne les attire pas. L'aspect politique, là, c'est un débat politique. On n'a plus les uns et les autres, disons, le poids qu'on pouvait avoir il y a 30, il y a 40, il y a 50 ans, ou il y a un siècle, dans les milieux dits populaires. C'est plus comme ça. Donc, je ne vais pas en discuter là. Donc, pour moi, ce n'est pas un échec. Ça ne pouvait pas marcher. C'est ma vision personnelle. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, ça n'a pas marché. Sauf quelques-uns qui se pointent de temps en temps, et puis qui s'éclatent complètement là-dedans, mais c'est quelques-uns. Alors après, quel est le public que l'on a? Eh ben, c'est ce que j'appelle, moi, la classe moyenne-basse. Classe moyenne par les études, c'est-à-dire bac plus 4, 5, 6, moi j'ai pas le bac, hein, je suis tranquille, mais moyenne-basse, c'est-à-dire petit boulot, mal payé. Mmh. On a majoritairement ça. Il y a des retraités, mais ils ont tendance à mourir, donc ils ont tendance à disparaître. Mais non, mais c'est vrai, on en a perdu pas mal en 12 ans. Mais si tu veux, voilà, bon. C'est autre chose. Alors après, là, est-ce qu'ils... Il y a une autre question aussi sur... Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est libertaire, pas, etc. Là, il vient de sortir il y a un film qui vient de sortir sur... Un film suisse sur les luttes dans les milieux de l'horlogerie, à la grande époque de la Suisse, et bon, quand il y avait des militants anarchistes partout, là. Je ne le savais pas. L'information est arrivée sur notre liste Internet. On a une liste Internet, donc un espace qui compte un millier de personnes. Hein, quand on va avoir un mail, il y a un millier de personnes qui le reçoivent. Qui disait, il y a un superbe film sur la Suisse libertaire avec Kropotkine dedans et tout. Non, il n'est pas Kropotkine de vrai, hein, parce qu'il dit plein. Je l'ai appris par là. Et puis alors, ça c'est parti dans tous les sens. Il faut aller le voir, c'est super bien. Moi, je l'ai vu. Donc, ça joue. Ça joue. Cela dit, il ne rentre pas dans les organisations, mais ça, on le sait, quand on est dans une organisation. Moi, je suis à la Fédération anarchiste depuis 50 ans. Quand on faisait des congrès, quand j'étais zone, on était 350, 400. C'est plus le cas aujourd'hui. Bon, voilà.
Donc, vous êtes beaucoup plus nombreux. Et de...
Oui.
Mais c'est comme nous, c'est comme nous, la CNT.
Alors, je connais bien mes commandes de la CNT. Alors, donc, si tu veux, bon, voilà. Donc, on essaie de faire passer... On peut, je pense, à travers, bien sûr, à travers les écrits, à travers les tracts, à travers les débats, on peut le faire, mais par la pratique aussi, on peut donner une vision très réaliste aux hommes et aux femmes des valeurs libertaires que l'on porte. C'est-à-dire que c'est faisable. Ça peut fonctionner, quoi. Le truc anarchiste, ça peut fonctionner. Ça me paraît plus intéressant.
Ah, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait du mouvement. Hein, c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont dans les... parce qu'ils déménagent, parce qu'ils...
Est-ce que...
Ces personnes qui changent de région, qui changent de... Est-ce qu'ils sont... Je sais pas, si tu as des retours, s'il n'y a pas des personnes qui ont essayé de créer, quelque part, ce genre de structure, justement. Ça permettrait le développement.
Alors, c'est très... C'est une bonne question, je te remercie de l'avoir posée. Surtout que, tu vas avoir la réponse en plus. Eh ben non.
Les réponses courtes, c'est les meilleures.
C'est intéressant. Non, mais... C'est intéressant comme tout. C'est-à-dire que, si tu veux, je fais des conférences un peu partout... Je suis invité parce que à chaque coup, que je découvre sur Internet une épicerie nouvelle, j'écris, j'envoie un mot, voilà, on fait ça, on peut se déplacer, on a écrit des bouquins, etc. Il y a tout un travail. Puis on a fait une liste qu'on a appelée FEDECOP, Fédération des coopératives alimentaires autogérées, qui regroupe 500 adresses, et là, on envoie des informations tous les 15 jours. Sur un modèle, sur comment ça marche ici, comment ça va ici. Bon, j'ai essayé d'adapter, de fédérer un peu tout ça. Je vois un truc à Clapier, à côté de Montpellier. Bon, je vais faire une conférence. Il voulait faire la loue à Clapier. Toi. Clapier, ça doit être, je sais pas, 10 000 habitants. Tout petit, quoi. C'est une connerie. Je fais une conférence. Deux, trois mois après, ils ont ouvert une épicerie en reprenant le modèle le samedi. Mmh. Pas d'informatique. Comment on met de l'argent d'avance, zéro marge. Et autre chose dont je n'ai pas parlé, tout le monde fait ses courses. Alors je vais essayer d'être clair, parce que ça, ce n'est pas facile à expliquer. Les membres font leurs courses, font le total de ce qu'ils ont acheté. Personne ne vérifie le total qu'ils ont fait. Et les gens indiquent sur leur fiche personnelle, j'ai acheté aujourd'hui 22,50 €. Et personne ne vérifie que vraiment, ils ont acheté 22,50 €.
Ça marche sur la confiance.
Oui, mais quand il y a 700 personnes.
Mais la responsabilité.
Et ça aussi, c'est intéressant. Ça aussi, c'était une des folies qui a été portée par les commissions éphémères. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais fou. Ils sont plus anarchistes que moi, là. Ils imaginent, ils vont lancer une épicerie où tout le monde va faire ses comptes. Il n'y aura pas de caisse, il n'y aura pas d'espace avec une caissière et tout ça, ou un caissier, là. Tout le monde fait ses comptes. Et ça fonctionne depuis 7 ans, dans la plus vieille épicerie. 5 ans dans la deuxième et 3 ans dans la dernière. Et eux, là-bas, à Clapier, ils reprennent ça. Et ce n'est pas des militants.
Ils payent.
C'est marrant, tu vois. C'est-à-dire que ce sont des gens qui... Et j'en ai plein comme ça. Par contre, ceux qui nous quittent, c'est dur à dire, hein. Il n'y a pas une seule épicerie qui s'est ouverte avec quelqu'un qui nous a quittés. Parce qu'il faut aussi du courage. Aussi se prendre en... y aller quoi.
Et puis trouver les. C'est bien de ne pas le faire tout seul non plus.
Et ils n'ont pas peur quand ils sont dans du collectif parce que ça marche bien, mais surtout qu'ils en sortent, il y a fédérer des gens. Les fédérer sur des projets comme ça, c'est pas évident. Là, il faut jouer sur l'expérimentation, on va essayer ça, il faut être un petit noyau dur. Moi, je dis toujours, il faut être un petit noyau dur, 4 ou 5, et puis vous balancez de l'expérimentation partout. Et puis là, vous pouvez faire des folies. Si vous réunissez 50 personnes pour discuter de l'épicerie future, toutes les conneries vont ressortir. Hein, avec les caisses enregistreuses, l'espère comptable, faux marger, les salariés mal payés, tout ça. Ça va ressortir. Donc vous pouvez être un noyau dur, vous proposez à titre expérimental quelques bricoles, et puis les gens vont s'apercevoir que si ces propositions expérimentales sont loin d'être idiotes, ça fonctionne, et on est heureux, et on est bien, et on passe des bons moments. Je sais bien expliquer un peu. J'ai répondu, tu avais trois questions.
Oui, c'est clair. Sauf la première, enfin celle qui concerne le public, en fait, c'était pas pour dire que vous avez échoué à convaincre. C'est pas un jugement de valeur. C'était pas. C'est comment finalement le modèle de cette épicerie, il reste dans un cadre militant ou paramilitant, c'est-à-dire avec quand même un noyau dur, puis une deuxième sphère plus investie, sans être militante dans des orgas, etc. etc. Et puis on finit par une nébuleuse autour qui constitue l'ensemble des 700...
On a un milieu globalement, voilà. Avec la map, on globalise tout, nous, hein.
Voilà, donc au-delà, en fait, il y a le vaste monde avec ceux dont tu parlais au départ, c'est-à-dire, mais on est encore au début du commencement de quelque chose.
On est au début du commencement, on est insignifiant. Ouais. Quand je dis on est 250 dans notre AMAP, les gens font les yeux comme ça, tu sais. Mais nous sommes 110 000 à Saint-Denis. Mmh. Tu as des petits villages de 800 personnes, ils sont 25 à la MAP. Ils sont vachement plus nombreux, en termes de rapport. Donc, non, c'est pas extraordinaire. Après, il y a, énormément d'initiatives. Par exemple, là, il y a deux mois, il y a eu l'initiative d'un salon, un salon bio. C'est le premier salon bio de Saint-Denis. La thématique, c'était manger bio et consommer autrement. C'est-à-dire que manger bio, mais consommer autrement, c'est-à-dire avec la liberté, avec d'autres procédures. Hein. Mais quand tu mets ce titre-là, tu sais que plein de gens ne vont pas rentrer. C'est compliqué tout ça. Moi, je suis trop vieux, j'ai 76 ans. C'est des questions que je pouvais me poser quand j'étais jeune. Maintenant, je dis, je vous laisse la place, les jeunes. Trouvez des solutions pour...
Non, ça, pour... c'est sympa, ça.
Pas... Non, mais attendez, moi, les vieux m'ont fait ça. Bon, allez, quand j'étais gamin. Donc, à vous de trouver des idées, des choses, pour arriver à intégrer des gens qui sont pas du tout... Là, il y avait la fête des tulipes à Saint-Denis, samedi, dimanche. Moi, je n'étais pas, j'étais ailleurs. Et je suis revenu pour vous. Hein.
Merci.
Mais c'était prévu, j'avais dit, donc je reviens. Et le stand qu'on avait avec, d'un côté, manger bio, de l'autre côté, une AMAP. Il y en a plein qui passaient devant, tu sais. AMAP, ils ne savent pas ce que c'est. Mmh. Bio, ce n'est pas pour eux. Voilà, c'est tout. C'est très lourd. Hein. Il y a un très gros boulot. Hein. Mmh.
Des choses qui sont attachées, c'est vrai que bio, maintenant, c'est synonyme de chair aussi.
Ouais, bah voilà. Donc, c'est pour ça que, sur la notion de chair, toutes les structures qui se rapprochent de nous, hein, qui ont essayé de... Alors, il n'y a pas de modèle figé. C'est-à-dire, bon, nous, on a un modèle, mais c'est par exemple dans le bouquin que j'ai écrit sur les différentes épiceries, modèles d'épicerie, au début, je croyais que j'allais pouvoir les classer, tu vois. Et c'est inclassable. C'est-à-dire que c'est pas classable par ville, c'est pas dimension, c'est pas classable par association, SAS, coopérative. Tu peux pas les classer, tout ça, ça prend dans tous les sens. Hein. Et c'est comment. Ouais, bon. Allez, posez-vous des questions.
Bah, il y a peut-être un classement, parce qu'on en a. On peut-être un peu évoqué ça, c'est qu'il y a un classement. Éventuellement à faire sur entre celles qui ont dont les acteurs sont vraiment au cœur de la décision et celles où il y a une structure qui finalement limite les prises de décision, les prises d'initiative. Enfin, je veux, après avoir écouté attentivement, je vois surtout deux groupes de structures, en tout cas de genre de lieux de commerce. C'est celles où les membres, les participants ont une certaine liberté à organiser leur façon de commercer, d'échanger, etc. Et celle où, qui ressemble finalement au commerce traditionnel avec une structure rigide et puis des obligations à la fois structurelles, juridiques. Bon, alors ça fait deux groupes déséquilibrés, j'imagine.
Oui, non, mais c'est...
Bon, je parle en termes de classement par rapport à
ta typologie. On peut donner quelques classements, ça peut intéresser les auditeurs et ça peut vous intéresser. Bon, quand on a démarré il y a 7 ans, à Saint-Denis, il y avait une douzaine d'épiceries ouvertes par les consommateurs en France. Aujourd'hui, en avril 2023, il y en a entre plus de 350. Bon. Ce qui est intéressant, à partir de là, c'est... ça va être, on va parler de la presse nationale, tiens, je vous en parlais tout à l'heure. Quels sont les modèles d'épicerie que tout le monde connaît? C'est la Louve, c'est les supermarchés coopératifs. Et ça, c'est une vaste fumisterie. Parce que sur les 350, il y en a plus de 200 qui sont dans des villages, dans des petites villes de moins de 5000 habitants. Mais on ne parle pas de celle-là. On parle de la Louve et des supermarchés coopératifs. Hein. C'est ça, c'est intéressant. Sur les 200, il y en a à peu près deux tiers qui ont choisi... Alors, on va partir des mauvais. Il y a un tiers qui a choisi de reproduire alors, le commerce local, c'est-à-dire avec une association, président, bureau, etc. Salariés, bien sûr, au SMIC, en CDD, 25 heures par mois. Bien entendu, il ne faut pas les payer mieux, hein, c'est pas ça suffit comme ça. Et puis, on marge à 30-35%. Ça, c'est un tiers des 200. Moi, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est que les deux autres tiers, ils sont plutôt sur marge minimum, de 0 à 5, etc. Comme on n'a pas de marge, on ne peut pas embaucher. Donc, on n'aura pas quelqu'un mal payé. Mais par contre, on va pouvoir donner de l'argent à des producteurs locaux pour les aider à vivre. Ça, c'est le côté le plus intéressant des constatations que j'ai eues sur les expérimentations actuelles des épiceries, hein, ouvertes par les consommateurs. C'est majoritairement dans les petites villes, petits villages aussi. Hein. Et puis, deux tiers sont dans un modèle qui se rapproche de ce qu'on peut apprécier. le plus, toi. Pas trop cher, tout le monde dessine ensemble, etc. Voilà.
Bon. Puis avec des produits de saison aussi. Hein. Puis,
mais pour le, je reviens là-dessus sur les classiques. Le Biocoop, ça reste pour le grand public. Cette fois-ci, on touche les. Là, du coup, on peut toucher, tendre vers les 110 000 habitants de Saint-Denis. Pour eux, Biocoop, je crois que ça dit quelque chose, mais ça dit cher, effectivement, gentrification de la consommation des produits bio, bon pour la santé, etc., avec à 30 ou 40% plus cher que le produit classique.
C'est bien, c'est trop cher. Moi, je ne suis jamais rentré dans un Biocoop, ni dans un Naturalia. Bon, je suis pas pauvre, hein, je suis retraité, j'étais comptable, mais pour moi, c'est impensable. Je sais pas si vous rentrez dans un Naturalia, moi, je suis jamais rentré là-dedans. Parce que si je rentre, je vais péter les plombs, quoi. Quand je vais voir les prix, en plus, bon, ça va pas. En plus, actuellement, ils sont dans la merde, ça va mal en ce moment, hein, tout ce qui est ce type de Naturalia, Biocoop, Bio c'est bon, ça a une grosse partie à fermer. Bon, enfin, on va pas revenir sur ceux qui sont fermés. Ils sont mal. Mais c'est cher. Après, je reviens sur ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir ensuite comme catalogage chez, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que, et la gouvernance, ça ne va pas être que les petites ou que les moyennes ou que les grandes. C'est-à-dire que d'une structure à l'autre, il peut y avoir des dérives de gouvernance. C'est-à-dire la gouvernance pyramidale, qu'on connaît, bon, avec le président, les machins, les commissions qui décident, ça peut aller jusqu'à une gouvernance totalement horizontale, enfin, le plus horizontale possible, que moi j'appelle l'autogestion, hein, mais pas une autogestion démocratique avec une assemblée générale, mais une autogestion réelle de faire, le droit de faire. Et si on n'est pas d'accord, on peut faire néanmoins, parce que même si on n'est pas d'accord avec les autres, le droit de faire. Donc on n'est pas dans l'autogestion démocratique, où là, on doit quand même se plier au desiderata de la majorité. Et ça. Et entre les deux, alors il y a bien sûr, il y a un autre truc, moi j'ai découvert, mais vous devez connaître ça sans doute, vous êtes plus jeune, c'est la sociocratie. Ah, ça laisse un blanc, là. Vous ne connaissez pas la sociocratie, vous.
J'ai pas compris.
La sociocratie.
Bon, je ne vais pas vous en parler, là. La sociocratie, la délibération sociocratique.
La sociocratie.
Bon, je ne vais pas vous raconter ce que c'est, parce qu'il y en a pour une demi-heure. Dans le bouquin, j'en dis beaucoup de mal. Nicolas Hulot, sur son site, en dit beaucoup de bien. Donc, ça comprend pourquoi j'en dis beaucoup de mal. Voilà. Donc, mais là, bon, ça, c'est un intermédiaire qui est repris, par exemple, la sociocratie, c'est repris par la majorité des supermarchés coopératifs. C'est une pseudo-démocratie. On n'est pas dans la démocratie, mais on n'est pas dans l'autogestion, on est là, au milieu. Là. En vérité, il y a des mecs qui ont le pouvoir. Il hein. ne faut pas se leurrer là-dessus. Là. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre façon de séparer. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que j'ai essayé de vous raconter un petit peu le truc.
Je ne sais pas si parce que vous avez quand même des réunions d'accueil. Déjà, il y a un début de structure, c'est pas terrible, hein, je trouve. Non, je plaisante. Dans vos réunions d'accueil, vous leur dites ça aux nouveaux arrivants? Ouais. Ils comprennent pas ça?
Quoi?
Pas tout ce qu'on a dit là?
On lit pas de la même façon.
C'est pas clair? Bah oui. Il n'y a rien de qui soit abscond dans tout ce que tu as évoqué.
Ah non, j'ai pas dit que c'est abscond, mais après, il faut le vivre. Et là, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, tu peux partir en disant putain, c'est exceptionnel, mais après, il faut l'imaginer en pratique. Et ça, par exemple, j'ai des échecs quand je fais des conférences. Soit la mayonnaise prend. Les gens, ils partent dans une forme de folie. Les gens, on va créer un truc, il n'y aura pas de caisse, on va faire ça, tout le monde va commander, etc. Soit, quand, le lendemain que je suis parti, reviennent les habitudes. Oui, mais ça ne marchera pas. Il faut un président. Oui, mais on ne va pas acheter n'importe quoi quand même. Les gens vont acheter n'importe quoi, ils vont acheter des conneries. On ne va pas les laisser acheter quand même. Et là, ça revient. Alors, c'est un jeu, il y a un basculement. Donc oui, quand on fait la réunion d'accueil dure entre une heure et demie, et nous ne parlons que de politique. C'est-à-dire, on ne parle pas des produits. On ne parle pas des produits bio, de proximité, de machin, de truc. Ce n'est pas le sujet. Ça, c'est un deuxième accueil. L'accueil du départ, il est politique. Vous allez rentrer dans un collectif, une bande de fous, là. Et vous allez voir si ça vous plaît. Bon, vous restez, si ça vous plaît pas, vous partez. C'est la vie. Voilà. Voilà, donc nous, il y a un jeu, je sais pas.
Il n'y a rien de... Enfin, nous, c'est un peu différent. Parce qu'on a la CNT, donc il n'y a rien de...
On va peut-être conclure là. Hein, parce qu'il va falloir passer le relais avec les copains.
Oui. Allez, les annonces. Les titres de tes bouquins aussi.
Ouais.
Après, pour les annonces. Hein,
aussi, non, bah, vas-y, bah, on va les faire maintenant. Parce que...
Tu peux y aller. Hein.
Alors, pendant que vous préparez à dire les titres, moi je rappelle quand même aux auditeurs qui peuvent aller sur le site de Radio Libertaire aux événements spéciaux et vous pourrez trouver à l'occasion des... donc de l'événement des fêtes des 40 ans de Radio Libertaire à autogestion et épicerie, comment pratiquer l'autogestion avec des outils du quotidien. Et bon, ce sera pas Jean-Claude, ce sera Philippe, mais ça a été enregistré et c'est toujours sur le site de Radio Libertaire.
Bon, pour donner une suite du corps et puis pour continuer à s'informer et à se documenter sur le sujet de l'émission de ce jour, deux bouquins sortis par Jean-Claude Richard. Dionicop, les coopératives alimentaires autogérées dans le 9-3, hein, chez Édition Libertaire. Et les consommateurs ouvrent leurs épiceries, le titre est beaucoup plus long, toujours aux Éditions Libertaires.
Moi, je vais donner vite fait je vais passer à autre chose, des nouvelles d'Ivan qui est enfermé en préventive à la prison de Villepinte, excusez-moi, voilà, qui a donné de ses nouvelles récemment. Et voilà, donc les attentions à son encontre de la part de l'administration pénitentiaire continuent encore, des représailles pour sans doute des représailles pour ses grèves de la faim. Et il a eu le droit à encore une perquisition dans sa cellule, dans laquelle on aurait trouvé un portable et un chargeur, tout ça. Chose très grave. Voilà, non. Il nous fait savoir aussi que la police a réussi à avoir accès à ses ordinateurs, même s'ils étaient chiffrés, et avec des. Il y a beaucoup de chiffrage assez compliqué. Je dis ça parce que j'ai les copains de la CNT 38, je crois, qui vont faire une formation sur le chiffrage des ordinateurs. Mmh. Voilà, je ne sais pas pour qui c'est destiné, mais la police arrivera quand même à vous déchiffrer tout ça. Voilà, donc il est encore en préventive jusque je sais plus quelle est la date, bon au moins jusqu'au mois de juin. Hein. Regarde, est-ce que j'ai vu ça? Bon, il est encore en préventive, vous pouvez toujours lui écrire, même s'il reçoit son courrier deux mois après, à peu près. Hein. Et puis le courrier qu'il lui renvoie en réponse, c'est pareil. Mais vous pouvez toujours lui écrire donc à Ivan Aloco, A-L-O-2-C-O, numéro d'écrou 46-355, à la maison d'arrêt de Villepinte, 40 avenue Vauban, 93-420, Villepinte. Voilà, c'est bien de soutenir ses camarades anarchistes qui sont emprisonnés et qui nous reviennent vite parce qu'en ce moment, ça chauffe dans les rues. Et puis on sent bien qu'il est en manque d'activité. Donc on va se quitter, ça y est, on a déjà dépassé l'heure. Je vous informe quand même que sur Radio Libertaria, donc le 4e mardi du mois, c'est le 25 avril, le syndicat de l'énergie dans le service public va recevoir un journaliste d'investigation de Blast pour nous parler du nucléaire. Voilà. Nous, on se retrouve le 1er mai avec un spécial mai libertaire, avec un camarade de l'AFA qui sera avec nous, et de la CGT Info. Et puis voilà, et puis micro-ondes aussi sur Radio Libertaire, le 30 avril, 15h30, c'est l'émission. Et donc micro-ondes, c'est l'émission de la CNT, des syndicats du 94. Et vas-y.
Salut tout le monde, Nestor Potkin. Simplement pour dire, à l'hôtel de ville, il y avait un joli petit rassemblement de concerts de casseroles. Et bien entendu, qu'ont fait les flics? Ils sont venus, ils ont nassé, mais pendant qu'ils nassaient, les gens revenaient derrière. Alors voilà, j'y étais jusqu'à 9h moins le quart, donc je ne sais pas maintenant comment ça évolue. Mais on va dire, il y avait bien 500 personnes. Beaucoup de jeunes, mais des vieux aussi. Et ça hurlait, Macron démission, tout le monde déteste la police, enfin bref... Ça continue.
Du grand classique.
Du grand classique, heureusement.
Eh oui. Eh bien oui, justement, du coup, ils n'étaient pas à l'écoute de Radio Libertaire.
Oh merde. Bon.
Merci, bonsoir. Merci, merci Jean-Claude.
Salut.
Bah, merci Eric. Salut. Merci Bénédicte à la technique. On laisse l'antenne à Lulu. Et puis bah, merci à tous. Et puis on se retrouve le 1er mai.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.